Les journées de l'économie. GECO.
Il y a une expertise qui a été faite par les économistes et aujourd'hui, on se retrouve toujours dans une situation où on se demande pourquoi on n'agit pas.
André Orléans, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor, la web radio de l'ENS de Lyon. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous travaillez beaucoup pour parler de votre domaine d'études à partir de réflexions donc sur l'histoire de la pensée, sur des questions de paradigme économique, un petit peu d'épistémologie de la science économique, vous me dites si je me trompe. Donc pour commencer, une question justement sur votre parcours intellectuel, puisque vous dites hétérodoxe et on dit de vous que vous êtes hétérodoxe, j'aimerais savoir selon vous, qu'est-ce que recouvre ce mot d'hétérodoxe ?
Oui, c'est une question qui n'est pas très facile, en fait. D'abord, ça remonte, le terme, vous savez, le terme d'orthodoxe remonte à Keynes. C'est Keynes qui parlait d'orthodoxie, et il définissait l'orthodoxie comme tous ceux qui croient à l'autorégulation du capitalisme et des marchés. C'était comme ça qu'il définissait l'orthodoxie, la citadelle orthodoxe. Il disait qu'il fallait attaquer la citadelle, c'est-à-dire essayer de montrer qu'ils avaient tort. Et lui-même, d'ailleurs, se classait comme hérétique. Il n'utilisait pas le terme d'hétérodoxe, en fait, il opposait les orthodoxes aux hérétiques. Alors, est-ce que cette ligne de démarcation sur l'autorégulation marchande est toujours valide? Je crois qu'elle l'est. Elle l'est partiellement, parce qu'on a vu qu'à l'intérieur des courants orthodoxes, justement, il pouvait avoir des réflexions sur les caractères déstabilisants. Donc, on voit que la ligne de démarcation a un peu varié. Pour moi, je vous donne mon analyse. Je pense que la ligne de démarcation, c'est lié à la théorie de la valeur et aux méthodes, aux concepts. Donc, j'appellerais orthodoxes les courants qui sont à l'intérieur de la théorie de la valeur marginaliste et qui, peu ou prou, se retrouvent autour de la maximisation pour définir les comportements individuels et ce type d'outils analytiques comme la productivité marginale, cette vision des rendements. Donc vous voyez, c'est pour moi un peu, c'est ça l'orthodoxie. Et l'hétérodoxie, telle que moi je la comprends, hein, je pense que d'autres ont d'autres analyses, l'hétérodoxie est plus, pour moi, justement, dans l'opposition à l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire des courants qui donnent beaucoup plus de place aux questions institutionnelles, aux questions institutionnelles de qu'est-ce que c'est que les forces sociales, qui sortent de l'étroitesse du paradigme de l'individualisme méthodologique. C'est très flou, mais en fait, dans la réalité, c'est assez flou dans sa définition conceptuelle, même si en fait, dans la pratique, il est assez facile, en regardant des travaux, pour peu que vous y connaissiez un peu en économie, de savoir si la personne est hétérodoxe ou orthodoxe. Donc, sauf évidemment évidemment, il y a des cas particuliers qui sont durs à traiter, mais en fait, ça marche assez à partir des critères que je viens de donner pour dire qui est-ce qui est hétérodoxe, orthodoxe. Donc, ça veut dire d'ailleurs que les hétérodoxes sont très pluriels, parce qu'il y a plusieurs courants qui, chacun à leur manière, peuvent s'opposer à l'individualisme méthodologique c'est un peu ça. C'est bon. Ou alors on aurait pu donner une autre définition qui est une définition extensive. Donc les hétérodoxes, c'est la théorie de la régulation, le marxisme, les post-keynésiens, l'économie des conventions, alors la question des hayekiens et des autrichiens, des néo-autrichiens se pose. Est-ce qu'on peut les mettre dans les hétérodoxes ou pas? Voilà. C'est pas clair, mais c'est difficile d'être clair là-dessus.
Alors, pour aborder un peu avec vous la question de la mathématisation de l'économie, puisqu'en général, on a tendance, même si je suppose que c'est trop simple pour être vrai, d'assimiler l'utilisation massive d'outils mathématiques à une économie standard, donc une économie orthodoxe. Quels sont, selon vous, qui êtes justement hétérodoxe, mais qui pourtant connaissez bien les mathématiques, puisque vous êtes diplômé de l'école polytechnique et vous êtes un administrateur INSEE, vous qui connaissez bien les mathématiques, quels sont pour vous les dangers d'une ultra-mathématisation de l'économie et quels sont également les avantages, les points bénéfiques de l'utilisation de l'outil mathématique ?
Alors, j'étais administrateur de l'INSEE. Maintenant, je suis directeur de recherche du CNRS. On nous oppose souvent, en effet, cette définition de dire les hétérodoxes, le critère entre orthodoxe et hétérodoxe, ce rapport aux mathématiques. Je ne crois pas qu'il en soit ainsi. D'abord, parce que moi, personnellement, il m'arrive souvent de faire des modèles. Et chez les régulationnistes, il y a beaucoup de modèles macroéconomiques. Donc, ça ne me semble pas du tout légitime. Les mathématiques sont très, très utiles pour analyser les systèmes d'interaction complexes parce que c'est immaîtrisable par la pensée. Je crois que c'est un outil extrêmement utile et ça ne me paraît pas du tout être, ce qui serait le critère déterminant pour distinguer orthodoxe et hétérodoxe. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, c'est vrai que, à la différence des orthodoxes, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même des limites. Et d'ailleurs, vous avez parlé d'utilisation massive. Alors peut-être c'est là où ça se joue. Il y a des limites parce que je crois qu'il y a certains rapports sociaux qui ne se saisissent pas du tout par les mathématiques. Par exemple, quand on parle du rapport salarial ou bien du rapport marchand, je ne crois pas qu'on ait jamais trouvé une conceptualisation, à base de mathématiques. Donc, et en plus, c'est des rapports contradictoires. Donc là, moi qui me situe volontiers dans une tradition marxiste, il y a plein de choses qui échappent à la mathématisation. Il me semble que dans les questions, par exemple, d'intelligibilité de l'histoire, les mathématiques ne sont pas forcément utiles. C'est souvent une affaire de croyances collectives, de représentations collectives, de normes sociales. Et tout ça ne se saisissent pas par les mathématiques. Pourquoi ? Alors, c'est comme si on demandait aux historiens d'utiliser les mathématiques. Ils n'utilisent pas les mathématiques parce que il y a un certain type d'objets qui sont peu adaptés aux mathématiques. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que je serais d'accord avec ça. Donc il y a tout des tas de choses qui échappent aux mathématiques. Et donc ce qui est très problématique, c'est de faire de la mathématisation, penser que ce qui est mathématique est légitime. Je pense que c'est pas du tout. Il y a plein de choses qui échappent. Voilà pourquoi on ne peut pas tout réduire aux mathématiques. Mais dans certains points, ils sont très utiles. Je pourrais vous donner des exemples si vous voulez, mais c'est en effet très utile.
Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, cela me fait penser à la question de la validité de la connaissance économique, puisque vous dites qu'il y a des endroits où les mathématiques sont appropriées en fonction des sujets concernés, d'autres où elles ne le sont pas. Lorsqu'on a, par exemple, un résultat de type économétrique, donc je le rappelle pour nos auditeurs, ce sont des résultats dans lesquels on essaye de contrôler toutes les variables qui pourraient causer une variation du résultat pour comprendre à quel point telle variable joue sur un facteur que l'on veut observer, quelle peut être, selon vous, la pertinence ou le domaine de validité, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'un résultat économétrique peut-il être intéressant et dans le sens de ce qu'il apporte une connaissance, est-ce que ça se réduit à un cas très particulier puisqu'on contrôle tout, est-ce qu'on peut arriver après à refaire une inférence qui permettrait de faire des préconisations en termes de politique économique?
C'est vraiment la grande question et elle est effectivement très difficile. C'est que, à mon sens, comment est-ce qu'on répond classiquement à cette question ? C'est que quand on a essayé d'obtenir une causalité, une relation économétrique, en quoi on a mis en avant tous les paramètres, c'est-à-dire en quoi elle dépend de contexte. Et ça, c'est très, très difficile. C'est pas parce que le cœur du problème, c'est que nous ne sommes pas des sciences expérimentales. Dans les sciences expérimentales, il y a toujours la possibilité de contrôler l'ensemble des paramètres et de faire des expérimentations contrôlées. Nous ne pouvons jamais faire d'expérimentations contrôlées. Parce que même si on reprend les individus, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes lieux, etc. Donc, on a toujours beaucoup de mal à contrôler le contexte, c'est-à-dire les représentations direction générale, des acteurs, on ne sait pas très bien dans tel résultat, parce que ce n'est pas une science expérimentale, on ne sait pas très bien dans tel résultat ce qui dépend du contexte ou pas. Donc c'est toujours, on n'est pas dans le... C'est pas une science expérimentale, c'est pas une science, on n'est pas dans le cadre d'espèces de vérité, enfin on n'a pas cette épistémologie qui nous soutient. Et d'ailleurs j'étais intéressé de voir qu'il y a quelqu'un qui dit ça beaucoup, c'est Esther Duflo, pour justifier justement son type d'approche très particulière par sa méthode justement, où elle est capable, elle, de contrôler intégralement l'ensemble du contexte et de voir les effets. Et elle faisait des remarques qui étaient tout à fait semblables à celles que je viens de faire, en disant qu'en général, on ne l'avait pas. Ce qui m'étonnait, c'est que quelquefois, c'est que je me demandais si elle comprenait que ce type de remarques qu'elle faisait conduisait à abolir et à critiquer une bonne partie de la macroéconomie qui est quand même fondée sur ce type de résultats. Et ce qu'on voit chez Esther Duflo, alors, à contrario, c'est que c'est tellement spécifique qu'à la fin, on se demande ce qui est prouvé, quoi, à part le cas très spécifique dont elle montre que telle variable a tel effet, quelle est la part d'intelligibilité. Donc il y a beaucoup de, voilà, ces interrogations épistémologiques, elles restent. Je crois qu'on produit des choses, qu'on comprend des choses, mais que les propositions que nous sommes capables d'émettre sur l'histoire, grâce à cette économétrie ou ailleurs, sont toujours entachées de cette potentialité d'erreur qui tient à la nature particulière de des sciences sociales, qui ne sont pas des sciences expérimentales.
Alors, pour approfondir cette question-là et essayer de voir s'il existe une possibilité de communication entre les différents paradigmes, si l'on réduit à une distinction simple, mais ici aux vertus heuristiques, entre hétérodoxe et orthodoxe, existe-t-il des procédures de communication, de co-élaboration d'un savoir qui serait faite ou à faire, ou est-ce qu'on est sur un dialogue de sourds, première question, et deuxième question, si l'on est dans, est-ce qu'elles sont tellement opposées, dirons-nous, qu'on sombre en opposant l'une à l'autre à la guerre des intuitions fondamentales, c'est-à-dire l'indémontrable, ou on retombe en fait sur la sphère du postulat.
Vous n'avez pas des questions faciles, hein. Alors moi, mon point de vue, qui vaut ce qui vaut, mais c'est mon point de vue, c'est que pour être tout à fait honnête, et ça va paraître un peu extrêmement orgueilleux, mais dans mon schéma conceptuel, je ne nie pas l'important, je ne nie pas qu'il y ait des résultats du côté de la théorie néoclassique, c'est-à-dire donc je suis pas du tout dans cette je suis plutôt dans un schéma, évidemment, un peu comme le faisait Ken, c'est-à-dire de penser que j'ai une théorie qui est plus générale. Pourquoi elle est plus générale? Parce que je conçois très bien qu'on puisse faire des expériences de pensée sur lesquelles, par exemple, pour être très simple et même caricatural, les préférences des acteurs sont données. C'est ce que j'essaye de dire dans l'Empire de la Valeur. Si vous prenez le dispositif de l'équilibre valracien, je ne considère pas qu'il ne dit rien. Hein, je considère simplement qu'il est lié à un contexte institutionnel extrêmement particulier. C'est celui où toutes les marchandises sont données, où il y a un secrétaire de marché, etc. Donc je prends au sérieux les hypothèses et je dis que ça démontre quelque chose, ça une espèce de preuve quant à ce monde-là qui est assez fantasmatique, mais qui a quand même certains aspects qui sont proches du monde réel. Donc mon point de vue par rapport à ce que vous dites, c'est pas le heurt des paradigmes, c'est-à-dire que je conçois que dans la pensée néoclassique, on met en évidence un certain nombre de mécanismes possibles. Quand deux acteurs sont dans une situation de type dilemme du prisonnier, il se passe ceci ou cela. S'il y a des incitations de ce type-là, il peut se passer aussi ceci ou cela. Donc, pour moi, le maître mot, c'est ça. Il démontre des mécanismes. Mais là, ensuite, à partir de ces mécanismes possibles, à partir de certaines conditions institutionnelles, de repenser le réel, là, il y a vraiment une marge. Parce que la plupart du temps, justement, on ne domine pas les contextes et c'est beaucoup plus compliqué. C'est jamais exactement le contexte de l'expérience de pensée qui est la théorie des jeux. Pensez, par exemple, en théorie des jeux, quand on dit « les acteurs sont indépendants », c'est très simple. Alors, ils sont indépendants, ils vont jouer chacun. Maintenant, rendez-les indépendants. Quand vous essayez de tester expérimentalement l'indépendance l'indépendance des acteurs, ça devient extrêmement compliqué. Ça veut dire, par exemple, ils ne doivent pas se rencontrer. Le mécanisme de jeu doit être tel que l'autre n'entend pas ce que fait Alter. Donc, on voit bien que, en quelque sorte, cette hypothèse là, d'indépendance qui est très simple et qui peut donner un résultat, dans la réalité du monde social, cette indépendance, elle est très, très difficile à obtenir. Et souvent, on ne l'obtient pas. Vous voyez ce type de démarche, c'est-à-dire, donc ça ne veut pas dire que cette espèce de résultat de la théorie des jeux est faux, c'est qu'il faut prendre au sérieux les hypothèses qui sont faites, et souvent sont des hypothèses extrêmement restrictives. Donc passer ensuite dans le monde réel, il y a du travail. Donc je ne suis pas du tout dans l'optique, disons, de lutte des paradigmes. Je crois qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Alors il y a des choses que je trouve que je critique parce que les hypothèses me paraissent complètement invraisemblables. Alors le cas le plus éclairant et illustratif, c'est la question financière, dans laquelle toute la théorisation de la finance néoclassique est fondée sur l'idée qu'on peut faire une liste des états du monde qui serait objective, connue par tous, etc. Donc ça me paraît totalement absurde et la réalité n'est pas comme ça. Donc je peux dire je suis pas d'accord, mais c'est pas du tout pour des raisons, je dirais, idéologiques. C'est parce que cette hypothèse là me paraît complètement invraisemblable. Je l'ai jamais vue. S'il me prouve que ça peut exister, je changerai. Donc voilà un peu mon état d'esprit. Ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que il y a justement, c'est toujours essayer de l'appréhension de ces forces qu'on peut appeler long force sociale, pour leur donner un terme dont est familier d'ailleurs l'histoire et la sociologie, qui sont présents justement dans la manière dont on modèle les intuitions, les subjectivités, et qui sont tout à fait fondamentales. Et donc ça permet d'incorporer les mécanismes dont on a vu certains aspects qui pouvaient être positifs dans, me semble-t-il, une théorie plus générale, parce qu'elle essaye de saisir, mais tout à fait encore maladroitement, etc., avec tous les problèmes que je citais tout à l'heure sur les sciences expérimentales, mais elle est plus large, elle me semble plus large.
Alors, pour revenir très brièvement sur les mathématiques, pensez-vous, comme Roger Guénery, donc professeur d'économie au Collège de France, que les mathématiques sont à l'économie un espace de laïcité intellectuelle ? En quel sens est-ce qu'on pourrait l'entendre ? Est-ce que vous pensez que, ces propos-là vous résonnent en vous ?
Non. Non, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais non, parce que les mathématiques sont toujours utilisées à partir d'hypothèses. Donc, ce qu'il faut juger, c'est des hypothèses. Je comprends ce qu'il veut dire dans la mesure où c'est vrai. Là, une des grandes forces des mathématiques, c'est qu'elles sont extrêmement lisibles et facilement communicables. Donc, on sait, des fois, je ne sais pas, vous avez fait cette expérience, mais quand on lit Adam Smith ou quand on lit des auteurs anciens, Wicksell, par exemple, quelquefois, on a beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Tandis que quand vous avez un modèle mathématique, vous comprenez tout et tout est clair, etc. Donc il y a effectivement de la valeur ajoutée dans les mathématiques. Mais les mathématiques, c'est un peu aussi la question qu'on posait tout à l'heure, elle est mise en œuvre dans un certain nombre d'hypothèses. Donc voilà, c'est ça, c'est les hypothèses que je critique. Donc par exemple, c'est cette hypothèse que le marché est centralisé autour d'un secrétaire de marché, ou bien que les préférences sont exogènes. Voilà, c'est ça qui est en cause, c'est les hypothèses qui permettent de produire des résultats, hein, parce qu'on peut prendre, on produit pas des résultats à partir simplement des mathématiques. Il faut bien des hypothèses sur l'état du monde, sur le comportement, et le fait qu'après il y ait des mathématiques ne valide pas en aucune manière, évidemment, les hypothèses qui sont faites.
Alors, dernière question, toujours ce Roger Guénery, donc dans la conférence qui était avec vous dans la conférence de cet après-midi sur justement les controverses théoriques en économie, disait qu'il y a deux choses que l'économie peine à savoir, qui sont, je cite, les avalanches et les plaques tectoniques. C'est-à-dire, pour les avalanches, c'est-à-dire les situations de bulles, par exemple, c'est-à-dire on sait qu'il va y en avoir, comme le guide de haute montagne qui sait qu'il va avoir des avalanches, mais ne sait pas où, et pour l'économiste, les bulles ne sait pas quand, et les plaques tectoniques. tectoniques, c'est-à-dire des phénomènes qui sont très longs et très lents et parfois invisibles au premier regard. Êtes-vous, je pense, oui, d'accord avec cette affirmation, mais surtout, est-ce que vous avez d'autres exemples ou d'autres phénomènes, alors avec une expression imagée ou pas, de choses comme ça, qui, de domaines de connaissances ou de dynamiques qui échapperaient à l'économie ?
Ce qu'il voulait dire, c'est pas tellement qu'elle est, enfin, elle échappe à l'économie au sens où, pour l'instant, on n'arrive pas à en rendre compte par les outils disponibles de l'économie. Est-ce que j'ai des... Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à l'économie. Je veux dire, je me pose tellement de questions tous les jours sur tellement de phénomènes que c'est pas difficile, c'est tout le contraire. C'est qu'est-ce que l'économie me permet de penser avec suffisamment de certitude.
Alors, précision dans la question, du coup, dans les sujets qui sont traditionnellement exploités par l'économie, lesquels sont selon vous, par l'économie, ça dépendra de quelle économie, ça peut être intéressant de voir justement quel type d'économie peut traiter quel sujet au mieux, quels sont justement, alors du coup, ces domaines qui seraient intéressants d'être traités par une économie orthodoxe, et quels sont les domaines qui seraient intéressants d'être traités par une économie hétérodoxe?
Mais pour moi, alors... Oui, c'est intéressant comme ça. Oui, vous posez beaucoup de problèmes. Je crois que d'abord il faut dire que, à mon sens, quel est l'objet d'abord de l'économie ? Parce qu'on peut en discuter de l'objet de l'économie. J'en vois au moins deux possibilités. Moi, ma possibilité, ce que j'ai, l'objet pour moi de l'économie, c'est l'évolution historique du capitalisme, c'est-à-dire comprendre, voilà, quelles sont les formes du capitalisme, comment elles évoluent, comment évoluent les inégalités, la croissance, la financiarisation. Voilà, c'est ça mon objet, c'est l'évolution historique du capitalisme. Il y a un autre axe qui pourrait être celui de l'économie, qui est l'aide à la gestion, qui est pour moi, à mon sens, un des plus hyper développés aujourd'hui. Les économistes sont tout le temps en train de se penser comment je vais aider, etc., comment je fais, regarder ce que fait Tirole, par exemple. Il met en avant le fait qu'il est intervenu pour le pricing de marché, télécommunications, etc. Donc, il me semble que là, il y a une rupture. Il y a deux types d'attitudes dans les sciences expérimentales, elles sont réunies parce qu'on pense qu'on ne peut bien agir que si on a bien compris. Et en quelque sorte, c'est le même problème. Je crois que dans les sciences sociales, c'est assez différent, que se mettre du côté de l'action peut avoir des biais quant à la question de l'intelligibilité. Et alors, si je pose la question de l'intelligibilité, si mon objet, c'est l'intelligibilité de l'évolution du capitalisme, et que vous me demandez qu'est-ce qui est mieux de la pensée, disons, néoclassique et de la pensée hétérodoxe telle que je la conçois, puisque je vous ai dit, il y a plein de formes d'hétérodoxie. Alors, il n'y a pas de doute pour moi, c'est l'hétérodoxie. Parce que ce que comprend bien, c'est ça que je voulais dire, peut-être je me suis mal expliqué, la pensée néoclassique, c'est des mécanismes. Je ne pense pas qu'elle saisisse le sens de l'histoire. Il me semble qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui sont cette manière de d'auto-transformation des subjectivités des institutions, et ça, l'économie n'en fait jamais l'objet. L'économie, c'est l'économie néoclassique, c'est toujours la continuation d'une certaine manière de l'utilité des objets, on désire des objets. Si on place au centre de sa réflexion la question de l'évolution historique, de la manière dont ces sociétés capitalistes sont des sociétés contradictoires avec des rapports de force qui produisent des mouvements d'institutions, ces objets-là, à mon sens, ils sont assez mal perçu au moins conceptuellement par l'économie néoclassique. Ceci dit, il y a toujours à tirer de l'économie néoclassique parce qu'elle peut étudier ces mêmes phénomènes, elle a des données dessus, elle tourne autour, et donc à mon sens, j'aime bien la lire parce qu'on apprend plein de choses. Mais dans ce qui pour moi ressort de l'intelligibilité, à mon avis, non, elle y réussit pas, même si elle est très utile pour avoir des pour les données, pour les réflexions, pour les hypothèses qu'elle fait, mais elle n'a pas de cadre, à mon avis, son cadre d'intégration et n'est pas satisfaisant.
André Orléans, je vous remercie pour cette interview.
Merci à vous et merci.